Eh bien, on continue en accueillant Franck Panza, accompagnateur en montagne.
Tout d'abord, merci pour l'accueil. C'est assez extraordinaire d'avoir un plateau comme ça en pleine, en immersion totale dans la nature, quoi. Alors, c'est vrai que moi, au niveau des vibrations, c'est vraiment. C'est peut-être pas dans la vallée des merveilles où j'ai appris à marcher en montagne gamin, mais c'était plus dans cette vallée, dans cette belle vallée de la Pilla, que les gens du coin ne veulent pas trop finalement promouvoir et porter sur les grands guides touristiques. Donc j'ai préféré finalement, étant tout jeune, bénéficier d'un apport, d'une transmission. Dans le cadre familial, surtout les grands-parents qui étaient vraiment d'origine italienne, italien, devenu français en 1947. Et ses grands-oncles, les grands-parents qui m'ont finalement, par le toucher, l'odorat, enfin des choses assez simples, initié à toutes les joyaux de cette nature, quoi. Et j'ai pu user mes petits souliers sur les petits sentiers de Casteltourne, un petit peu de Pont-Riche, mais surtout Rio Fredo. Et je crois que je ne suis jamais réellement arrivé jusqu'au Graal, c'est le massif du Margoreis, quoi. Je l'ai fait que beaucoup plus tard. Donc voilà, ça m'a vraiment, vraiment inspiré, quoi. Donc j'ai peut-être pas eu un cursus universitaire, c'est peut-être un regret, ou fait une thèse comme Nicoletta, quoi. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à apprendre tout ça. Donc un petit peu plus tard, j'ai passé un brevet d'état à l'époque d'accompagnateur en montagne. Et puis, bon an, mal an, je me suis retrouvé là aussi, piqué par la Vallée des Merveilles. Là encore, j'ai pas honte de le dire. Enfin, tous ces la Vallée des Merveilles et tous ces lieux satellites comme Fontanal, le Poligny, où on a vraiment une énergie, la Valmasque. Et c'est vrai que pour revenir à une enfance, une adolescence, de temps, c'était tellement acquis. Que finalement, on n'avait pas nécessité de s'y intéresser, alors que finalement, ça a été un appel et percé un peu tous les mystères. À l'époque, on parlait beaucoup de légendes, d'histoires mystiques, mystérieuses, la sorcière de la Valmasque, le diable, etc. Donc, le Val d'Enfer, on parlait que de ça, quoi. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être une théorie de grands professeurs qui est restée impassible pendant des décennies. Et puis finalement, on a plus appris un petit peu sur le tas et bien plus tard avec des thèses un petit peu plus, pointues, quoi. Et donc, à partir de là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait une foule de choses à savoir. Diplôme en poche, je suis arrivé face à des visiteurs, des clients, mais finalement, ces gens-là savaient peut-être autant de choses que moi. Donc, il a fallu, lors d'escapades plutôt solitaires, quoi, essayer d'apprendre, de faire un peu un lien avec des éléments théoriques et puis de le mettre en pratique, quoi. Système D, ça n'a pas toujours été évident, mais quand on fait de belles rencontres, comme c'est le cas, là on apprend, les mots sur le site vont avoir une portée, des éléments scientifiques échangés sur site, ça a une portée qui est grandiose, quoi. Donc voilà, petit à petit, un petit peu une formation, un peu sur le tas. Et ces rêves que j'avais, gamin, à travers ces légendes, finalement, c'est devenu un petit peu addictif et à la fois un besoin. Alors, pas de faire des performances, de gravir 10 sommets en moins de 24 heures, etc. Mais de passer du temps et passer de manière un petit peu de saut de puce, de la géologie, l'archéologie, etc. Un peu tous ces domaines, picorer et d'apporter un peu mes connaissances. Aux personnes, en fait, aux visiteurs, aux gens désireux. Alors, soit des gens avaient étudié depuis de longues dates. Certains me disent, bon, ça fait 30 ans, je veux venir sur cette vallée des merveilles. J'ai attendu d'être à la retraite ou autre pour venir. Des gens qui avaient découpé à l'époque soigneusement des coupures de presse, etc. Petit à petit, voilà, c'est une évolution en fait qui m'a conduit à finalement m'écarter un petit peu de cette vallée des merveilles, du site de la vallée de la Roya en hiver, pour un côté plutôt sportif. Et je m'aperçois que finalement, à courir dans tous les sens, on oublie peut-être un peu l'essentiel. Et donc peut-être j'arrive à un niveau peut-être un peu de maturité où finalement se poser, se remettre un peu à l'écoute de cet environnement fait énormément de bien.
Est-ce que tu peux revenir, tu évoquais ces temps de transmission en famille, ces balades comme ça, ces éléments précieux en fait de grands-pères, de grands-parents.
Alors ça a été voilà, des grands-parents qui m'amenaient avec des micros troupeaux. Enfin, ils n'étaient pas vraiment éleveurs, mais une fois à la retraite, en fait, j'ai un peu parcouru. Et ça a été, bon, les premières choses, ça a été les tisanes. Les plus amères possibles, d'absinthe, des choses imbuvables. Ou dès que moi j'étais sujet à des maux de ventre, donc j'avais droit à ma tisane d'absinthe, etc. C'est. Donc la petite gentiane bleue que tout le monde connaît, qui était vraiment. assez imbuvable. Non, c'est vrai qu'à dose homéopathique, voilà, c'est quelque chose, les camomilles, les choses comme ça. Alors j'ai eu, bon, malheureusement, j'ai pas assez fréquenté, mais le berger Pierrin, voilà, surnommé Pierrin Jacket, les quelques rencontres avec lui et l'observant partir à la cueillette. Ouais, ça c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est des choses qui nous marquent, voilà. Donc comme je disais déjà, il n'y a pas du tout d'approche vraiment scientifique, mais ça a été vraiment donc essentiellement, voilà, par toutes ces infusions, etc. Et puis c'est vrai que pendant un bon moment j'ai un petit peu délaissé tout ça à tort. Donc j'ai encore peut-être tout à réapprendre et à revisiter ces éléments.
Comme tout à l'heure, Nicoletta évoquait cette notion de transmission du feu, par exemple. Et là, tu évoques des choses précieuses qui sont de l'ordre du geste. Tu parlais de l'observation et on évoquait les notions d'observatoire et de laboratoire et de la vallée. Et tel que tu l'évoques, en fait... C'est un espace à ciel ouvert d'expériences permanentes. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, de cette notion qui, tu disais, voilà, tout est là.
Tout est là, mais voilà, et c'est vrai qu'on a besoin de passer pas mal de temps et l'apport voilà, de personnes. J'ai pu rencontrer, voilà, des scientifiques très pointus qui venaient sur le site pour la première fois et qui, avec quelques mots, waouh, j'ai essayé de faire la connexion avec mon expérience et ces éléments. Et c'est vrai que ça, voilà, il y a eu certaines étincelles assez vraiment assez vital pour moi, quoi. Voilà, donc finalement, je m'aperçois que tout ce que j'ai fait étant jeune, mais finalement, je me fais un petit peu, c'est pas une revanche, mais un point d'honneur à dire, bon, ben, je vais perpétuer ça et essayer, ben, pourquoi pas, de transmettre à mon tour tous ces éléments. Et c'est vrai que finalement, partir en randonnée avec des jeunes, finalement, tout se fait quand même assez naturellement. On oublie vite la difficulté de la grimpette parce qu'il y a tellement d'éléments. Alors ça va de la... Bon, il ne faut pas abîmer des lieux protégés, mais l'observation de petits cailloux qui, pour nous, vont être précieux, avec des époques géologiques du Permien qui ont marqué vraiment le site de la Vallée des Merveilles, le magnifique lieu karstique, en fait, du Margarès, où là, on n'a pas du tout la même chose. Donc, c'est vrai que ça a été des allers-retours, et je pense que... Finalement, en nous, voilà, on a encore beaucoup de choses à apprendre et à transmettre aussi à tous ces niveaux, quoi. À tous ces niveaux.
Est-ce que tu parles beaucoup de scientifiques, mais enfin, moi, la question que je me pose, c'est toi, en ayant vécu toutes ces années dans la région, tu as développé un rapport particulier, une capacité à faire attention à des choses auxquelles personne d'autre n'est capable de faire attention, enfin en tout cas pas des gens de l'extérieur, et même des gens avec une grande culture scientifique ou un gros bagage scientifique. Donc ma question, c'est, toi tu disais que d'être parti avec des scientifiques sur le terrain, ça pouvait être intéressant parce que ça a permis de faire des étincelles, etc. Mais est-ce que les étincelles vont pas dans les deux sens, parce que quand on arrive avec des lectures et des relevés, des calculs sur des relevés biologiques, etc., on a peut-être tout un ensemble de connaissances sur la vallée, la géologie, la biologie, les écosystèmes, et on n'a peut-être pas cette capacité de faire attention dans les deux sens du terme, c'est-à-dire d'être attentif et de voir les différences qui font sens dans un environnement qu'on connaît bien. C'est un peu comme quelqu'un qui part dans le désert et qui ne connaît pas le désert et qui va avoir une grande étendue. Ou quelqu'un qui se promène dans une forêt, là, ici, et qui verra une grande forêt d'arbres, mais qui sera incapable de se repérer tout seul. Alors que toi, tu pourras, justement, il y a plein de gens qui se repéreront parce que tu seras en mesure de faire attention à ces détails qui sont importants ou ces différences qui permettent de t'aiguiller et de te trouver des repères. Et puis la deuxième chose, c'est de faire attention dans le sens de soigner, c'est-à-dire de prendre soin d'un environnement dont on a besoin. Parler de l'absinthe, de la camomille, et de toutes ces choses qu'on t'a fait boire de gré ou de force quand tu étais jeune. Mais ça veut dire qu'on peut aussi tirer des choses assez sympas de la montagne. Parce que... Et donc ma question, c'est est-ce que quand tu emmènes des gens, que ce soit des jeunes ou que ce soit des personnes plus âgées, quels qu'ils soient, quel que soit leur bagage, est-ce que c'est pas toi d'abord qui leur apprends à faire attention autrement à cet espace qui pour eux est complètement étranger, ou simplement connu, mais avec, ça va de la coupure de journaux au livre, aussi détaillé soit-il. C'est pas parce qu'on a lu tout sur la préhistoire de la Roya qu'on est capable de se débrouiller tout seul dans de la Pia, dans la vallée, et de se retrouver.
Alors, exactement, on est vraiment dans ce...
Est-ce que c'est pas toi le scientifique, en fait, qui accueille tous ces gens qui ne connaissent pas grand-chose, en fait?
Oui, en tout cas...
Ou qui connaissent qu'une partie classe, des choses.
Hein. Voilà, j'essaie dans ce sens-là, mais la plupart des expériences, c'est gens qui voilà, vont être... En général, quand on redescend de la Vallée des Merveilles, on a souvent plus de questionnements, même du point de vue du scientifique. Ah ben tiens, j'ai déjà vu ça. Est-ce que je peux pas faire de... Il y a beaucoup de rapports qui peuvent être instaurés avec divers groupes culturels, etc., divers lieux. Et c'est vrai que souvent, il y a ce moment où on arrive dans un endroit qui est magique. Et généralement, ce qui prime, quand tout va bien, c'est qu'il y a un silence où plus personne parle, quelle que soit voilà, l'approche qu'il a, il y a la phase de silence, d'observation, d'essayer de rentrer dans ce côté tellurique qui S'évaluer, c'est quand même assez épuisant. Et puis, tu vas t'apercevoir que ça va trop charger, il va y avoir un bienfait. Donc, la première des choses, en général, c'est le silence. Et mise en éveil peut-être des sens. Et après, c'est souvent un petit peu, effectivement, l'interrogation. Et chacun va sortir un petit peu sa théorie. Mais on est souvent... La finalité, c'est beaucoup d'interrogations et de curiosité, ah ben tiens, et qui incite à rebondir sur d'autres univers ou prolonger à la prochaine fois, quoi. Ça, c'est un peu le retour que j'ai pu faire.
Et quelle est ta perception, justement, de cette vallée?
Alors, elle est vraiment... Donc la vallée, c'est vrai que c'est quand même assez c'est devenu un petit peu un besoin. Hein. On se fait peut-être un peu envahir par le monde moderne et bruyant et etc. Et c'est vrai que ça devient vraiment assez viscéral. Il y a une ambiance. Alors moi, je me déplace assez peu finalement en plein hiver sur ces hauteurs. C'est un environnement qui est hostile, qui va être malgré tout un terrain d'expression pour beaucoup. Mais c'est vrai que quand je repars au printemps, c'est vraiment une renaissance, c'est vraiment quelque chose qui paraît être nouveau, quoi. Qui paraît nouveau. Étonnamment, il n'y a pas de lassitude, donc c'est vraiment un renouveau, quoi. Donc ça, c'est assez, c'est vraiment le point de départ. Et puis finalement, ces montagnes, pour un petit peu revenir, pour faire un saut sur ce que disait Guy, j'aperçois vraiment comme difficile, très, très bien, certes, mais c'est pas rédhibitoire pour un passage. On comprend vraiment que dès qu'on prend de la hauteur, ça semble être plus des lieux de passage. À chaque époque, que ce soit que vraiment des barrières, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez... malheureusement, on s'est beaucoup rendu compte durant la tempête que par les crêtes, on arrivait peut-être à se relier tous, France-Italie. Et ça, ça me paraît assez important, quoi. Plus ça va et plus il y a cette nécessité, quoi.
Dans quelle mesure dans quelle mesure on arrive à plus se relier à travers les crêtes? Parce que les gens sont passés par les crêtes, du coup, alors qu'avant ils passaient par les tunnels.
Voilà, passer par les tunnels. On s'est rendu compte que quand un tunnel flanche, on peut quand même malgré tout passer à dose homéopathique, mais par les crêtes, etc. Ça a été quand même finalement un peu une délivrance de dire qu'on n'est pas enfermé, mais on arrive quand même à aller acheter une lampe, des choses assez basiques. Puis Nicoletta nous expliquait qu'il y avait des pièces de monnaie romaine, notamment au col de Tende. On se dit waouh, ça a beaucoup transité. Et on fait abstraction de tout ce qui s'est passé auparavant, quoi. Donc on se dit que peut-être connaître son passé, il y a toujours eu des voies de communication. Je pense qu'il peut y avoir des voies de communication indispensables à l'heure actuelle, sans que ça soit des autoroutes nocives pour la vallée et la quiétude de la vallée, quoi. Si on arrive à les mettre en place correctement.
Tu parlais de cette notion, je reviens dessus brièvement, de prendre soin.
Alors, ça c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parlé de labellisation, on fait beaucoup de marketing avec des labels, avec des parcs, et finalement, je trouve que on s'aperçoit en fait que la richesse, elle est aussi... à proximité des granges de la Pillade, de Pont-Riche, de Montrignol. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être pas oublier voilà, d'avoir cette conscience, d'y aller peut-être avec un certain respect. Voilà, il n'y a pas besoin de retrouver des vétos, des interdictions pour faire attention, pour protéger un petit peu tout ça, quoi. On se revendique de la vallée ou de cœur ou d'adoption ou par ses racines. Mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui s'installent avec vraiment, finalement, un coup de cœur. Mais on n'a pas le droit pour les générations futures, pour les gens qui arrivent de très loin, d'abîmer ce joyau, quoi. On disait, c'est vrai qu'on est un petit peu, non pas... J'aime pas ce mot coincé, mais entre la Méditerranée, les Alpes, on a eu à une époque, il y a à peu près 20 000 ans, des époques glaciaires. Donc on hérite dans notre héritage, on a vraiment, voilà, que ce soit des espèces animales et des végétaux qui sont assez anachroniques, qui poussent à quelques presque mètres près. On retrouve de la flore boréale associée à une flore méditerranéenne. Et ça, c'est vrai que. Voilà, il faut vraiment en avoir conscience et on n'a pas le droit d'abîmer ça pour nous-mêmes et pour tous les gens qui vont passer par là, quoi, ou s'installer, quoi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Franck.
Merci à vous. Merci à vous tous.